Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Mesdames et messieurs, dans notre voyage vers la découverte de l'Afrique et sa richesse, il nous arrive parfois de traverser des zones de turbulence, comme c'est le cas dans notre périple du jour, où un vent fort venu des États-Unis d'Amérique touche l'espace économique et commercial mondial. Et l'Afrique n'y échappe pas. Son nom, droit de douane. Alors, à quelle vitesse ce vent risque-t-il de perturber le climat socio-économique de notre cher continent ? Pour en savoir plus, nous aurons l'œil aiguisé de notre pilote du jour, M. Abdelatif Komat, professeur universitaire et analyste socio-économique. Bonjour professeur et merci de nous servir de vol aujourd'hui, de guide plutôt, mais aussi de pilote dans ce vol vers la destination Afrique.
Merci à vous pour cette aimable invitation.
Alors professeur, sans plus tarder, pouvez-vous d'abord nous expliquer ce qu'est le droit de douane ?
Alors les droits de douane, ce sont des taxes qui sont imposées lorsqu'il s'agit de faire migrer des marchandises d'un pays vers un autre et qui s'ajoutent bien sûr au prix, au fait initial avec lequel sortent ces produits. Alors ils ont plusieurs objectifs. Tout d'abord, ce sont des recettes pour les États. Mais ils permettent également de protéger en fait les secteurs productifs des États concernés, essentiellement le secteur industriel, le secteur agricole, et puis de réguler également le mouvement des marchandises. Il faut également rappeler que les droits de douane, ils font partie intégrante de la structuration du commerce international depuis pratiquement toujours, depuis au moins un siècle. On se rappelle la décision en fait du président américain à l'issue de la crise de 1929 qui a décidé, à l'instar de Donald Trump, d'augmenter les droits de douane, et cela a impacté le commerce international. Et puis, bien évidemment, on peut également rappeler quelque chose d'important, c'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en fait, la communauté internationale a régulé différentes dimensions économiques, financières et autres, mais le commerce, il n'a pas pu le réguler. En fait, nous avons fonctionné avec ce qu'on appelle des RAND, des GATT, de 45 jusqu'à 94, date de la création de l'Organisation mondiale du commerce, d'ailleurs à Marrakech, et qui a en fait instauré d'une part une réduction des droits de douane, et puis on est allé vers la création de zones de libre-échange et pratiquement qui ont banni les droits de douane pour encourager le commerce international comme un vecteur de développement socio-économique. Oui, aujourd'hui, en fait, on est en train de renverser la barre. C'est un acte très, très important, ce que nous sommes en train de vivre dans l'évolution de l'économie et du commerce international.
Donc, toujours cette dynamique de commerce international. Alors, comment, professeur, la fin ou la modification de préférences commerciales américaines affectera-t-elle les économies africaines ?
Alors, bien sûr, il les affectera comme il affectera les économies du monde entier, parce que, de toute façon, cette décision, pratiquement, il touche tous les pays. Peut-être un peu moins du fait que, en fait, le commerce avec les États-Unis ne représente que 7% du commerce international des pays de l'Afrique, alors qu'avec l'Europe, qui représente pratiquement 30%, du commerce extérieur africain, l'Asie est plus de 20% et les États-Unis à peu près 7%. Donc, bien évidemment, ce n'est pas aussi important que les autres continents, mais ça reste quand même déterminant parce qu'il faut rappeler que, en fait, cette dynamique du commerce avec les États-Unis, il a pris de l'ampleur depuis maintenant pratiquement un quart de siècle. En fait, il y a en fait une loi qui date d'il y a 25 ans qu'on appelle l'African Growth and Opportunity Act. En fait, c'est la croissance et les possibilités économiques en Afrique et qui a permis aux pays africains en fait d'exporter plusieurs produits aux États-Unis exemptés de droits de douane. Et donc, ça a commencé à encourager les pays africains à développer en fait des produits au-delà de ce qu'ils exportaient classiquement comme matières premières, hydrocarbures et autres, à commencer à fabriquer, notamment dans le domaine de l'automobile, dans le domaine du textile, à fabriquer pour exporter vers les États-Unis. Et le fait qu'il y ait aujourd'hui ce changement, je dirais, notable qui est dans la perspective, parce qu'il faut rappeler qu'il a été reportée de 90 jours, ça va certainement impacter le coût de vente de ces produits aux États-Unis et donc altérer cette dynamique économique, notamment liée au commerce de l'Afrique avec les États-Unis.
Avec les États-Unis, parce qu'il s'agit clairement aujourd'hui d'une offensive économique et commerciale américaine. Les droits de douane américains, d'ailleurs, freinent-ils le développement industriel de l'Afrique?
Alors, bon, ils ne vont pas le freiner. Ils ne devraient pas le freiner parce que l'Afrique, aujourd'hui, il a une stratégie. C'est un continent en plein potentiel. C'est le continent qui va connaître la plus grande croissance démographique mondiale. Nous allons passer à plus de 2,5 milliards à l'horizon 2050. Donc, il y a une richesse au niveau minier, au niveau agricole, au niveau halieutique. Et en principe, ça ne devrait pas freiner. Alors, ça devrait impacter, oui, négativement, parce que l'Afrique est un pays, ou plutôt est un continent qui est orienté vers l'international. Il produit pour le marché interne, mais il produit également pour exporter. Et le fait qu'un marché gigantesque comme celui des États-Unis augmente d'une manière substantielle des droits de douane, certainement ça va impacter négativement certains créneaux de l'industrie tel qu'il est envisagé au niveau des pays africains. J'ai évoqué tout à l'heure, par exemple, l'industrie automobile. Vous savez que des pays, notamment comme l'Afrique du Sud, comme le Maroc, aujourd'hui, qui développent l'industrie automobile dans la perspective d'exporter, notamment vers le marché américain. Ça peut être l'industrie de tout ce qui est textile, habillement, la confection. Également, ce sont des ponts d'industrie qui se développent dans des pays africains, des transformations de produits miniers. Donc, il y a effectivement certains ponts de l'industrie africaine qui pourraient être touchés par cette décision d'augmenter les droits de douane américains.
Les droits de douane américains, cette décision, comme vous l'avez dit, ne pourrait pas impacter forcément l'industrie africaine, mais aussi les petites et moyennes entreprises africaines. Peuvent-elles survivre à une politique commerciale américaine plus protectionniste?
Alors, survivre, oui. Bon, et comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une dépendance à 100% du marché américain, surtout pour les petites et moyennes entreprises africaines qui sont orientés essentiellement vers les marchés locaux. Il faut rappeler que le marché américain, c'est un marché gigantesque et ce sont des grosses structures qui ont la capacité de produire pour le marché américain. Alors, les PME, ils peuvent être touchés, surtout sur certains créneaux. J'ai évoqué tout à l'heure, par exemple, tout ce qui est textile, tout ce qui est habillement, tout ce qui est transformation de certains produits de terroir. Ces aspects-là, oui. Mais je ne crois pas que ces décisions vont remettre en cause cette dynamique des PME d'une manière générale au niveau des pays africains, parce que leur marché de prédilection, c'est essentiellement le marché local, le marché régional, le marché continental, notamment l'Afrique, et puis l'Europe et l'Asie. Je dirais que les États-Unis, pour les PME africaines, vient au dernier ressort et il va y avoir certainement un impact, mais il ne sera pas déterminant pour aller jusqu'à un anéantissement de la PME africaine.
Donc, d'aujourd'hui, de l'après-midi de l'économie africaine, entre autres aussi. Mais également, ce qu'il faut noter, c'est quel impact également ces droits de douane également peuvent avoir sur les chaînes de valeur régionales en Afrique. Parce que ça aussi, c'est important à savoir.
Ah oui, bien, les chaînes de valeur régionales, c'est essentiellement lié aux produits agricoles, aux produits miniers et certaines industries de transformation. Surtout les produits miniers. Vous savez qu'il y a une richesse énorme au niveau de l'Afrique et puis les États-Unis ont besoin de produits miniers. Alors aujourd'hui, je dirais que l'impact il est double parce qu'il ne faut pas le voir que du côté de l'Afrique, mais également du côté des États-Unis qui ont besoin de ces matières premières et de ces produits miniers pour l'industrialisation. Donc cela pourrait altérer cette dynamique justement au niveau des chaînes de valeur. Vous savez qu'aujourd'hui, nous tendons de plus en plus vers une économie complexe, vers une économie interdépendante où il y a des chaînes qui se constituent entre plusieurs pays, plusieurs régions. Et bien évidemment, si en fait il y a des décisions qui impactent ces flux, cela pourrait porter atteinte aussi bien aux pays émetteurs qu'aux pays receveurs. Et c'est pour ça que je dirais la question elle est grandement posée. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que comme cela se fait aujourd'hui au niveau de l'Europe, au niveau de l'Asie, il faudrait qu'il y ait une stratégie africaine. Il faudrait qu'on développe davantage la complémentarité intra-africaine, qu'on développe l'intégration économique africaine, c'est-à-dire les échanges entre les pays de l'Afrique. Il faut rappeler que l'Afrique reste le continent le moins intégré économiquement. Une récente étude de la BAD, de la Commission économique et financière des Nations Unies, ont relevé que l'Afrique n'est intégrée qu'à hauteur de 37%. Ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme d'échanges et d'investissements entre les pays africains eux-mêmes. Et c'est à ce niveau-là que les chaînes de valeur devraient se développer dans l'avenir. Il faut réduire de la dépendance, il faut développer de l'inclusion. Et je crois, comme cela se passe notamment en Europe, on le constate, il y a une prise de conscience pour développer plus d'autonomie, plus d'indépendance, plus de souveraineté. Et je crois que l'Afrique devrait également se réveiller davantage sur cette nécessité d'un développement global, intégré et inclusif entre les pays africains eux-mêmes, avant de le faire avec le reste du monde.
De le faire avec le reste du monde, la montée des tensions commerciales entre grandes puissances économiques comme les États-Unis, la Chine et l'UE crée-t-elle aussi des opportunités ou des menaces pour l'Afrique ?
Alors, ils peuvent être les deux à la fois. Alors, ils peuvent être des opportunités parce qu'il faut rappeler que par certains pays, les droits de douane, ils sont moins élevés que dans d'autres pays, notamment la Chine, l'Europe, etc. Donc, l'essentiel des pays africains, ils sont soumis, ils devront être soumis à des droits de douane à hauteur de 10%, c'est-à-dire le minimum. Cela peut encourager la relocalisation ou plutôt la délocalisation vers les pays africains de certaines, notamment créneaux industriels, et ça peut être une possibilité d'industrialisation pour l'Afrique. Mais également, c'est une menace parce que l'Afrique commerce avec le reste du monde et la menace, elle est globale, elle est universelle. C'est une menace de récession. Si on va vers une récession, c'est-à-dire une baisse d'activité au niveau de l'Asie, au niveau de l'Europe, qui sont des marchés pour l'Afrique, cela pourrait impacter négativement les exportations des produits africains. Et donc, personne aujourd'hui n'a intérêt à ce qu'il y ait cette récession parce que nous sommes en interdépendance commerciale et économique. Si le reste du monde est en récession, cela impactera les pays qui exportent et cela, et c'est le cas des pays africains. Cela également peut impacter négativement les prix des matières premières. Vous savez que les pays africains exportent beaucoup de matières premières. S'il y a une récession et moins de demandes de matières premières, cela pourrait impacter négativement leurs prix. Et pour dire que c'est mitigé, donc il y a des menaces, il y a des opportunités, mais c'est à l'Afrique de tirer les leçons de ce tournant et d'essayer de tirer le maximum des opportunités et de réduire au maximum les menaces. Et cela, bien sûr, suppose une réflexion stratégique, suppose plus de cohérence et d'intégration entre les pays africains.
Entre les pays africains, aujourd'hui également, quand on parle de l'Afrique, l'Afrique est-elle aujourd'hui, notre continent bien sûr, est-elle suffisamment représentée dans les instances commerciales internationales pour défendre ses intérêts ?
Alors il faut rappeler une chose, c'est que l'Afrique aujourd'hui ne représente que 3% du commerce mondial. Donc c'est peu dans ce qui se fait en matière de commerce mondial. Et bien évidemment, il a moins de poids que l'Asie, que la Chine, que des pays de l'Asie du Sud-Est, que l'Europe et les États-Unis. Mais cela n'empêche que, étant donné qu'il a une grande taille démographique, il y a une superficie énorme, il y a un potentiel énorme, il devrait être plus représenté au niveau des instances commerciales. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les grandes décisions commerciales se décident entre les grandes puissances, qui sont essentiellement la Chine, l'Union européenne, les États-Unis. Bien sûr, l'Afrique fait partie des pays en développement qui ont leur mot à dire, mais ils doivent être, je dirais, plus présents au niveau des instances parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a des négociations, qu'il y a des discussions qui tracent les grandes lignes du commerce mondial.
Du commerce mondial et qu'elle aujourd'hui également, toujours dans cette dynamique de commerce mondial et toujours dans la perspective du positionnement africain face à cette nouvelle crise économique, entre guillemets. Et quel rôle l'intégration africaine, notamment SLECAF, peut-elle donc jouer pour compenser l'effet des barrières douanières américaines ?
Effectivement, ça c'est le salut de l'Afrique, c'est d'aller vers plus d'intégration économique. Las Vegas est un projet très ambitieux qui a tracé une unité au niveau financière, au niveau commercial et au niveau de la complémentarité des économies et au niveau de grands projets stratégiques qui devraient rapprocher les pays africains, notamment en termes d'infrastructures. On sait que si aujourd'hui il y a un déficit en termes d'intégration, c'est essentiellement à cause des procédures qui sont lentes, mais également à cause des infrastructures qui ne permettent pas facilement la mobilité des personnes et des marchandises. L'ASVECAF, je crois qu'il devrait être la solution pour l'Afrique. On voit que l'Europe aujourd'hui, par exemple, si on ne tient que l'Europe comme exemple, la grande leçon qu'il tire de cette situation, c'est en fait l'obligation de s'unir et de se développer selon un projet commun. C'est ce qui devrait se faire en Afrique, parce que l'Afrique, il a cette possibilité d'être le plus autonome possible, parce qu'il regorge de moyens, il a le capital humain, il a des richesses naturelles. Et cela la prédispose, bien sûr, à développer une complémentarité commerciale et économique, notamment dans le cadre de l'ASVECAF. Cela n'empêche que l'Afrique a besoin de composer avec le reste du monde, parce qu'il a besoin de technologie, il a besoin de know-how, il a besoin de savoir-faire. Mais la base de développement devrait être le continent africain, notamment en opérationnalisant cette entente douanière, commerciale et financière qui est prévue dans le cadre de l'ASVECAF.
Et aujourd'hui, quand on parle également de ces droits de douane, le Royaume du Maroc est également impacté ou bien aussi concerné, je dirais plus, par rapport à ces droits de douane. Aujourd'hui, la position du Maroc et aujourd'hui, comment aussi sur le plan économique cela pourrait impacter notre royaume et aussi, surtout, également, est-ce que le Maroc est préparé, selon vous, à de pareilles situations ?
Alors oui, en fait, le Maroc, je dirais, il est plus préparé. Il est plus préparé, je dirais, pour trois raisons. La première, tout d'abord, c'est qu'il a une économie diversifiée. Le Maroc ne dépend pas, à l'instar d'autres pays, d'un ou de deux produits. Nous avons une économie diversifiée et donc cela nous donne une marge de manœuvre en termes d'exportation. Le Maroc également, il a des partenaires diversifiés. En fait, à un certain moment, on avait l'Union européenne comme pratiquement, je dirais pas le seul, mais pratiquement l'essentiel de nos échanges se faisait avec l'Union européenne. La tendance depuis des années, c'est la diversification. Nous avons des relations très fortes avec la Chine, avec la Russie, avec les États-Unis. Vous savez qu'avec les États-Unis, nous avons en fait des échanges très, très, très importants dans le cadre des accords de libre-échange. Il faut rappeler que le Maroc est le seul pays africain qu'il y a des accords de libre-échange avec les États-Unis et que les échanges commerciaux ont été quadruplés depuis la signature de l'accord de libre-échange. Donc ça, c'est très important. Le Maroc également a bénéficié du taux le plus réduit de 10%. Et donc cela ne devrait pas l'impacter relativement par rapport aux autres pays. Et donc l'attrait du Maroc en termes d'investissement et de délocalisation devrait être à l'avantage du Maroc. Mais ça n'empêche, comme vous l'avez dit, le Maroc doit toujours rester en veille sur un plan stratégique sur ses fondamentaux du commerce international, à savoir la diversification de l'économie, la diversification des partenaires, et puis de développer des relations très fortes stratégiquement, politiquement, avec les grandes puissances dans le monde. Et c'est le cas du Maroc. Le Maroc est un pays qui est aujourd'hui respecté, qui est aujourd'hui considéré de par sa position géostratégique, de par sa stabilité politique, comme une force aujourd'hui, notamment de relations entre ces puissances et le reste du monde, notamment l'Afrique. Et je crois que stratégiquement, je dirais que le Maroc est mieux préparé que d'autres pays pour faire face à ce genre de situation. D'autant plus que nous avons en fait prouvé cette capacité de résilience et de faire face à des crises avec sérénité, avec clairvoyance. Donc notamment sous la conduite de Sa Majesté, on a vécu des situations difficiles et on s'en est sorti avec au contraire des opportunités et un positionnement stratégique qui se profile pour les prochaines années.
Et tout de suite, bien évidemment, avant de revenir vers vous, je rappelle, Abdelatif Kobat, vous êtes donc professeur, mais aussi également expert en tout ce qui est donc aux relations socio-économiques également et analyste également. Nous allons tout de suite écouter cet élément avant de revenir.
Les droits de douane, outils classiques du protectionnisme économique, sont bien plus qu'un simple instrument fiscal. Ils sont aussi un levier géopolitique. Lorsqu'un président américain décide d'en taxer un autre, comme ce fut le cas avec la Chine sous Donald Trump, l'Afrique se retrouve dans l'œil du cyclone. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont bousculées, les matières premières voient leur prix vaciller et les pays africains, dépendants de marchés extérieurs, peinent à s'adapter. Alors comment l'Afrique peut-elle se positionner ? L'heure est venue de renforcer les capacités locales de production, de valoriser les matières premières sur place et surtout de miser davantage sur les échanges intra-africains. La zone de libre-échange continentale africaine, ou ZELECAF, représente une réponse stratégique en visant à réduire la dépendance aux grandes puissances commerciales. Si les droits de douane américains peuvent parfois ouvrir des portes, ils rappellent aussi cruellement à l'Afrique la nécessité de construire sa souveraineté économique. Il est clair qu'un continent qui dépend des décisions d'autrui pour vendre ses produits est un continent vulnérable. Il est donc temps que l'Afrique soit actrice et non spectatrice du grand théâtre du commerce mondial sous l'ère Trump.
De retour dans votre émission Destination Afrique, les droits de douane au cœur donc de cette guerre commerciale entre les États-Unis et aussi les autres pays, notamment le continent africain. Nous avons parlé de l'Afrique de manière générale, du Maroc, mais aussi quand on parle de l'Afrique, il y a des organisations comme la CEDEAO, l'Union africaine entre autres, qui sont interpellées. Aujourd'hui, est-il nécessaire pour l'Afrique de revoir sa politique économique, sociale, mais aussi ses relations avec des pays comme des puissances américaines?
Effectivement, bien évidemment. En fait, il y a, je dirais, des niveaux au niveau de l'Afrique. Il faut rappeler que l'Afrique est organisée économiquement sous forme de ce qu'on appelle des communautés économiques régionales. Ils sont au nombre de 8. Vous avez évoqué le CEDEAO, mais il y en a d'autres. Il y a l'Union du Maghreb arabe, il y a en fait, les communautés de l'Afrique de l'Est. Et malheureusement, en fait, ces communautés, ils devraient développer, je dirais, l'intra-intégration et l'inter-intégration. C'est-à-dire qu'ils devraient développer davantage les relations entre les pays composant ces communautés, mais également la collaboration entre ces différentes communautés. Et cela devrait se faire, notamment dans le cadre de l'Union africaine. La dimension économique, elle a toujours été au cœur de l'intégration continentale et régionale. Vous savez que l'Union européenne, elle a vu le jour dans le cadre, justement, de défis commerciaux et économiques et financiers. Ça devrait être le cas pour l'Afrique, parce que si l'Afrique développe ses communautés économiques et développe son intégration continentale, il constituera une force de négociation avec les grandes puissances. Aujourd'hui, on ne peut pas, aujourd'hui, chaque pays ne peut pas négocier avec des puissances. Même l'Europe, aujourd'hui, ne peut pas le faire. La France et l'Allemagne n'ont pas la capacité de négocier unilatéralement avec les États-Unis et avec la Chine. Ils sont appelés à le faire dans le cadre de l'Union européenne. Qu'en est-il pour des pays qui sont peut-être de moindre dimension économique, comme les pays africains ? Ils ne peuvent pas, aujourd'hui, traiter avec de grandes puissances économiques. Ils ne pourraient le faire que dans le cadre de l'unité africaine. Et là, c'est le rôle de l'Union africaine, c'est le rôle des communautés économiques régionales. C'est à ce moment-là, en faisant prévaloir tout d'abord cette taille africaine, ce potentiel africain, ce capital humain africain, que nous serons entendus comme continent et peut-être prendrons en considération d'une manière plus forte nos intérêts dans des grandes décisions comme celles que nous sommes en train de voir se prendre ces derniers temps.
Merci encore à vous, Abdelatif Komat. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire, mais aussi analyste socio-économique. Avec vous, nous avons survolé l'espace aérien de l'Afrique, mais aussi du monde à travers ses droits de douane pour avoir une expertise éclairée de cette question. Merci encore, cher professeur, de votre expertise et aussi de nous avoir permis de survoler cette question.
Merci à vous pour l'invitation.
Et merci également à vous, chers compagnons, de ce voyage autour de l'Afrique, de l'expertise africaine, mais aussi des questions qui concernent notre cher continent. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro. Au plaisir.